RMC Motors avec Motorsport TV, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez maintenant sur l'antenne de RMC, c'est Motors, vous le savez comme tous les dimanches, entre 13h et 14h, et c'est un vrai bonheur de vous retrouver pour parler de sport mécanique, même si on en a pas mal parlé dans les grandes gueules il y a quelques instants, avec JC, avec Jean-Christophe et puis avec Stephen Brun, mais on va tout de suite en parler avec des spécialistes, c'est le cas de le dire, avec Adrien Tambay. Salut Adrien.
Salut Jean-Luc, salut à tous.
Et puis avec Lucas Vinois, salut Lucas.
Salut Adrien, salut Jean-Luc, salut à tous.
Et tout de suite, évidemment, puisqu'on est dans Motors, c'est que c'est la première partie, c'est le tour de chauffe.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Et voilà, vous l'attendiez, et c'est le mot n'est pas usurpé, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que si l'on revient, Lucas, sur les conditions météo qui régnaient sur le chaudron, le tourniquet hongrois, comme tu veux, en tout cas pour la journée de vendredi, c'était impressionnant. Et tout de suite, ma première question, puisqu'on est évidemment le jour du Grand Prix, est-ce que le soleil est revenu ou bien est-ce qu'on va avoir quelques ondées aujourd'hui?
Non, le soleil est bien là, il fait très très chaud ici, plus de 50 degrés la piste actuellement. Alors on va avoir une usure des pneumatiques qu'il va falloir surveiller de très près, qui pourrait être très très importante, notamment au niveau de la stratégie, mais zéro risque de pluie aujourd'hui. Mais attention, une course qui sera quand même très très intéressante, puisque en rythme de course justement, les Ferrari se comportent bien mieux et parviennent à mieux tenir les pneumatiques que les Mercedes qui s'élanceront devant.
Alors voilà, tu as déjà donné une des clés, effectivement. Adrien, c'est toujours difficile pour des pilotes, surtout maintenant dans l'univers technologique tellement mesuré, tellement calculé de la Formule 1, quand on a comme ça pour les qualifs quelque chose. D'ailleurs, précisons une chose, c'est qu'au niveau automatique tout est ouvert, du coup on n'impose pas justement une monte pneumatique aux 10 premiers comme c'est le cas d'habitude.
Oui, à la différence de d'habitude, effectivement, on s'est lancé hier en qualification sous la pluie, et donc on n'a pas utilisé en Q2 tel ou tel type de pneumatique, donc on est libre de partir avec celui qu'on veut, le plus tendre ou pas. C'est ça qui va être très intéressant avec Mercedes qui est un peu en délicatesse depuis le début du week-end sur le sec, et donc voilà, on va voir si Ferrari est capable d'aller les dépasser en stratégie, parce qu'on sait que c'est un circuit où il est très très difficile de dépasser, de doubler sur la piste, mais bon, c'est Ferrari qui dominait jusqu'à la qualification, en fait.
Absolument. Alors Lucas, justement, pour venir et expliquer un petit peu mieux cette histoire de monte pneumatique, on a vu Pirelli recouvrir à une monte particulière, on a les ultra soft, et puis après on fait un saut dans la gamme Pirelli, on a les soft et les médiums. Alors les paris sont ouverts. On a vu évidemment quelques long runs, notamment le vendredi après-midi dans le cagnard, dans la surchauffe de la Hongrie. Je te demande pas de te mouiller, mais à ton avis, on partira plutôt avec les médiums ou avec les soft en début de course?
Alors là c'est vraiment très compliqué répondre à cette question. Il va y avoir une donnée importante aussi, c'est pour les voitures qui sont suiveuses. Le seul qui va avoir de l'air pur normalement, s'il s'élance correctement, ce sera Lewis Hamilton, et derrière on a très peur de la surchauffe si on est dans le diffuseur en fait de la voiture qui vous précède.
Bien
donc
sûr.
Pour se rapprocher, ça va être compliqué, la dégradation pneumatique va être importante, notamment pour Valtteri Bottas qui, s'il reste derrière Hamilton, aura forcément des problèmes rapidement avec ses pneus arrière, comme c'était le cas en qualification.
Et normalement, Adrien, on est parti a priori pour un arrêt, j'ai ici les résultats de l'an dernier, le Grand Prix avait été remporté par Vettel devant Raikkonen, Bottas et Hamilton, on reprend les quatre mêmes, et Vettel s'était arrêté au 32e tour pour monter des softs, il était naturellement parti en ultra soft. Raikkonen au 33e tour, Bottas au 30e, Hamilton au 31e. Bref, tu penses que ça va jouer peut-être un peu comme ça?
Tu parlais de médium et de soft, mais sait-on jamais, peut-être les ultra soft pour Ferrari.
On sait
qu'elle démarre bien depuis quelques grands prix, elles prennent l'avantage au niveau du départ par rapport au Mercedes. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus chez Ferrari, et le fait d'avoir des ultra soft, des pneus donc du coup plus performants, peut-être en début de course, qui vont chauffer plus facilement, avoir une meilleure, s'élancer mieux sur la grille et aller dépasser Mercedes. Mais c'est un risque, parce que si on reste bloqué derrière avec pneus plus performants sur le tourniquet hongrois, on risque de mettre d'hypothéquer directement en début de course toutes ces chances. Maintenant, comme le disait Lucas, c'est très difficile de prévoir ce que les écuries vont faire,
effectivement. Et là, on va masquer le jeu jusqu'au dernier moment. Quand on va découvrir ces pneumatiques sur la grille de départ, là, ça prendra une importance tout à fait particulière. Je vous propose d'écouter au micro de Lucas Vinois, l'homme qui a signé la 77e, quand même, record absolu, évidemment, pole position de sa carrière de pilote de Formule 1. C'est la 5e de la saison. Ça le ramenait au niveau de Vettel, qui avait signé la dernière pole en Allemagne. C'est bien sûr Lewis Hamilton et sa Mercedes. Écoutez-le sur le début de course.
Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Il y a pas mal de choses qui doivent se décider avant que je prenne une décision pour mon avenir. Pour le moment, je dois juste attendre de voir ce que Red Bull veut faire. Et après, on verra bien.
Oui. Alors là, on n'est pas du tout sur le bon son. Là, apparemment, c'est Ricardo.
Non, c'était Carlos Sainz qui parlait de son éventuel. Bon.
On va le retrouver. Le son de Lewis Hamilton parlant de son départ, donc pour essayer de garder naturellement les Ferrari. Ça, c'est un sujet qu'on va aborder un petit peu tout à l'heure. Le problème des transferts qui est toujours à l'ordre du jour et plus que jamais. Vous le savez, en Formule 1, on appelle ça la silly season. On va en parler dans un instant. On reste sur la grille de départ, Adrien, avec ces deux Mercedes. On peut dire que c'est quand même une surprise. Bon, il y a un petit écart quand même entre Hamilton et Bottas. C'était un peu la loterie, hein, les qualifs. On a vu même que l'adhérence de la piste n'était pas la même en Q1, en Q2 et en Q3.
Ouais, c'était une séance de qualification peut-être la pire à gérer ou la plus difficile à gérer pour les pilotes parce que des conditions changeantes du début à la fin. Une partie du circuit est complètement détrempée, une autre complètement sèche. Un choix de pneus en début de qualification entre des slicks et des intermédiaires, ensuite entre des intermédiaires et des full wet. Enfin bref, c'était vraiment pour tout le monde compliqué à gérer et pour les pilotes parfois de l'équilibrisme. En tout cas, c'est une fois de plus Lewis Hamilton qui s'en sort le mieux après l'erreur de Sébastien Vettel lors du dernier Grand Prix chez lui où il avait quand même 9 secondes d'avance et où il allait accroître.
Normalement, c'était pour lui.
Il allait accroître son avance au championnat. Mais et puis la situation qui s'est complètement renversée. Pour l'instant, la réussite, elle est vraiment du côté de Mercedes, surtout quand on sait que depuis le début du week-end, sur le sec, sur ce circuit-là, ils sont en délicatesse avec le train arrière de leur monoplace. Et voilà, c'est pour l'instant, ça tourne vraiment à la faveur de Lewis Hamilton.
Je vais vous rappeler le classement général provisoire du championnat du monde avant ce 12e Grand Prix. C'est donc Lewis Hamilton qui est au commandement avec 188 points. Devant Sébastien Vettel et la Ferrari 171, évidemment c'est le grand duel. Et derrière on retrouve les deuxièmes couteaux, ils vont pas m'en vouloir. Kimi Raikkonen 131 et Valtteri Bottas 122. On va écouter maintenant Lewis Hamilton justement au micro de Lucas parler de ses espoirs au moment du départ de ce Grand Prix de Hongrie.
La météo était surprenante. La pluie redistribue les cartes, ça provoque des erreurs et on a l'opportunité d'en profiter. La pole position est très importante, mais ça ne fait pas tout. J'espère qu'avec un bon départ, on pourra garder les Ferrari derrière nous.
Et oui, on verra. Effectivement, Lucas, c'est clair que bon, la météo là, tu me dis, il y a pas de risque même d'avoir une averse a priori. Qu'est-ce que prévoit justement la météo là, éventuellement?
T'es insistant hein, quand même. Tu veux de la pluie, mais malheureusement, je pense que ça va être compliqué de ben t'apporter. Oui. Mais comme disait Lewis Hamilton, ça va être difficile de garder les Ferrari derrière, puisque la procédure de départ des Ferrari est vraiment impressionnante. Et il y a quand même 600 mètres entre la pole et le premier virage. Donc attention, il peut y avoir de la bataille dès la ligne droite, et puis on pourrait peut-être avec un départ un petit peu fou se retrouver avec une voiture rouge qui pointerait le bout de son nez en tête au premier virage.
Ça, ce serait une vraie surprise quand même. Parce que comme tu le dis, il n'y a que 600 mètres, c'est pas beaucoup. Il y a quand même pas mal de circuits. C'est un peu spécial
c'est
parce qu'on plonge.
Ouais, c'est à double tranchant, Jean-Luc, parce qu'effectivement, on n'a pas le temps d'étirer la grille. Et il se passe souvent des choses dans le premier virage en Hongrie, parce que c'est une épingle, mais assez large. Donc plein de trajectoires,
un peu en
dévers, assez large. Plusieurs trajectoires possibles, on peut tenter l'extérieur, on peut aller à l'intérieur complètement et puis ensuite il y a à nouveau une ligne droite et à nouveau une opportunité de dépassement dans ce deuxième virage dans le gauche, donc souvent il se passe des choses et même parfois des contacts.
Allez, on rappelle que Lewis Hamilton s'est imposé ici, tenez-vous bien, 2007, 2009, 2012, 2013, 2016, c'est carrément impressionnant. Vettel, lui, s'est imposé en 2015 et 2017. Raikkonen avait gagné en 2005, Ricciardo en 2014, et puis Alonso, le pauvre, j'allais dire 2003. Évidemment, ce sont des souvenirs bien anciens, comme on le signale à chaque fois. On va écouter Pierre Gasly, qui a réalisé une perf magnifique en étant sixième sur la grille de départ aux commandes de sa modeste Toro Rosso à moteur Honda. Il nous parle des conditions folles de ces qualifs. Au micro de Lucas.
C'était incroyable, franchement trop content, surtout pour l'équipe. Ça a été dur, difficile ces derniers week-ends pour nous, et là il y a eu des conditions de fou. On a mis les pneus slick, les intermédiaires, les pluies, et je savais qu'il y avait une opportunité. Juste super heureux, et ça fait du bien pour tout le monde.
Il avait la banane comme Ricardo, Lucas, quand il répondait à tes questions, Pierre Gasly. C'est vrai que c'est génial, se retrouver sur la troisième ligne de la grille de départ aux côtés de Sainz.
Ouais, il était super, super heureux. Pierre Gasly, surtout, qui connaît des moments un petit peu difficiles avec sa Toro Rosso, hein, sur le sec. Voilà, les performances ne sont pas trop là. Ils ont un déficit de puissance moteur. Il y a un problème aussi de coordination entre la soufflerie et la porte de ses pièces, justement, en piste. On n'arrive pas trop à régler cette monoplace. Donc là, voilà, le châssis de la Toro Rosso est vraiment performant. Et hier, il a montré tout son talent dans des conditions difficiles.
Alors, quand on déroule la grille, Adrien, derrière les deux Mercedes d'Hamilton et Bottas, on a les deux Ferrari, on l'a dit, de Raikkonen et Vettel. Par parenthèse, petite déception malgré tout pour Vettel de se faire devancer par son équipier. Et l'autre élément induit, c'est qu'il partira du mauvais côté de la grille. C'est important. Le Hungaroring n'est pas très utilisé dans l'année. Donc vraiment, la ligne de la partie gauche, hein, les numéros impairs, on va dire, c'est quand même très important.
Oui, et puis à droite, c'est vraiment sale. Bon, je pense qu'en Formule 1, ils font tout ce qu'il faut pour nettoyer cette piste. Mais effectivement, hein, y a un vrai avantage à partir du côté gauche. Et pour en revenir à Kimi Raikkonen, je le voyais même plus fort que ça qu'il
irait
quand même.
Il avait la pole, hein.
En qualification, mais bon, à chaque fois, il n'arrive pas à conclure. Ouais. Vraiment, il a beaucoup de performances cette année par rapport à Vettel, mais c'est toujours Vettel qui va au bout, qui sort un chrono. Bon, même si là, il a raté la pole position, Raikkonen était plus performant que Sébastien Vettel sous la pluie hier.
Ah oui, puis 17 pôles quand même au total de Raikkonen, ça n'est pas rien. La dernière, c'était quand même à Monaco, il y a plus d'un an. Ouais. Donc, ouais. Alors, je vous l'ai dit, Carlos Sainz, le pilote espagnol, dont on ne sait pas s'il va rester chez Renault, ce qui irrite un peu tout le monde, et notamment, Lucas nous le disait hier, le papa, le Carlos Senior, qui est un peu fou dans le paddock. Il y a un certain Pierre Gasly, donc, qui a réalisé une belle performance. Et puis, il y a un autre Français qui est dans le top 10. Il s'agit de Romain Grosjean. Et pour lui aussi, la mission était difficile, puisque les pilotes avaient peu roulé dans ces conditions, on vous l'a dit, de pluie. On écoute Romain Grosjean parler justement de ce que ça signifiait pour lui au volant de ça. C'est au micro de Lucas Vinois.
Dans l'ensemble, la voiture était extrêmement rapide sur le sec. Après, bon, bah, il a plu. C'est la première fois qu'on roulait avec la voiture sous la pluie, donc il y avait pas mal de choses à apprendre. Et je pense que voilà, on va pouvoir en tirer du positif. Après, je suis déçu sur la fin parce que Verstappen me bloque mes deux derniers tours méchamment. Donc ouais, c'était pas top.
Ah, toujours les problèmes, Adrien, de cohabitation de Romain Grosjean avec d'autres pilotes. Par parenthèse, la direction de course s'est penchée sur le cas Verstappen. Seulement Verstappen, lui, il était à la limite de la boule de pluie du pilote qu'il précédait. Bah, logiquement, Grosjean, il s'est trouvé à la limite de la boule de pluie de Verstappen.
Oui, et puis en qualification, dans ces conditions-là, c'est toujours très difficile, même si on est informé par nos ingénieurs, de savoir qui est devant, qui est derrière. Et puis avec le spray que les monoplaces dégagent,
c'est
on
pas
voit
mal
rien.
Le spray comme expression.
C'est le spray. Et c'est compliqué de.
C'est rafraîchissant.
Bon, je sais plus ce que je voulais dire.
Ça fait rien, c'est bien quand même. Lucas.
C'est vrai que l'ensemble des pilotes ont été gênés. Ricardo, c'est la raison pour laquelle il passe pas en Q3, c'est-à-dire que au moment où il a changé de pneumatique, il y avait un tour, la fenêtre était très courte, il fallait faire un tour tout de suite. Ouais. Et sur ce tour-là, il a été gêné par une monoplace et après c'était trop tard.
Effectivement, c'était trop tard. On va finir de parler de cette grille, on y reviendra naturellement, mais parce que le prochain sujet, vous l'avez compris, c'est la silly season. On va l'aborder, c'est-à-dire les changements et les perspectives avec cette grille. Donc je vous disais que Sainz et Gasly sont sur la troisième ligne, Verstappen, on ne l'oublie pas, un peu une déception ou une grosse déception quand même pour Verstappen, Adrien, je pense que tu seras d'accord avec moi, et Brian Hartley qui au contraire lui fait une belle performance, il est pas très loin de Gasly hein, sur
ça montre que la Toro Rosso est toujours très performante dans ces conditions de pluie, historiquement aussi d'ailleurs, c'est difficile à expliquer parce que depuis des années, dès qu'il pleut cette Toro Rosso est performante, alors on change de réglementation, on passe d'une réglementation à l'autre, mais elle est toujours là sous la pluie cette Toro Rosso, et Brendan a fait une bonne qualification tout comme Pierre, c'était important avec les Red Bull qui sont pas forcément performantes, donc c'est toujours bien d'être devant les grandes sœurs en fait.
C'est clair. Alors Kevin Magnussen est sur la cinquième ligne de la grille, il devance donc Romain Grosjean, c'est les deux As qui repeignent la cinquième ligne. Ensuite on va trouver Alonso, 11e position. Alors il a pas l'avantage du choix des pneus, on vous l'a dit, puisque comme il a plu en qualif, et bien tout le monde peut choisir ce qu'il veut. Et Ricardo, ça c'est la grosse déception, seulement 12e sur la grille de départ. Ensuite on trouvera Hülkenberg, ça aussi c'est une déception, seulement 13e avec Ericsson à ses côtés. Puis Stroll, pour lui, c'est plutôt bien paradoxalement d'être 15e avec Van Dorn à ses côtés. Charles Leclerc et Esteban Ocon, encore des déceptions, ils n'ont pas à la roulette des qualifs, ils n'ont pas tiré le bon numéro, tous les deux. Et puis Perez et Sirotkin, là aussi on sait qu'il y a des menaces sur Force India, on en reparle dans un instant. Vous êtes bien dans Motors sur RMC, on vous parle de Formule 1, du Grand Prix de Hongrie dans un instant, c'est la Silly Season, les transferts, vous restez avec nous.
RMC Motors avec Motorsport TV. Jean Lecroix.
Voilà, vous êtes bien dans Motors. C'est la deuxième partie de cette émission consacrée au sport mécanique tous les dimanches entre 13h et 14h. Nous parlions du Grand Prix de Hongrie. Il y a plein de choses à dire et maintenant on va vous parler des transferts et de la silly season. C'est le moment du briefing.
RMC Motors.
90, 150 mètres, droitie, 320.
Le briefing.
Alors là, ce que vous entendez, c'est un copilote de rallye. On y viendra au rallye tout à l'heure, je vous rassure, puisque on parlera naturellement du WRC en Finlande. Ça se déroule en ce moment. Benoît Boutron nous rejoindra et Patrick Rivet également pour parler de ce rallye du WRC. Mais nous, on reste dans le cadre de la Formule 1. Alors, j'ai fait, je sais pas si Lucas, tu as des nouvelles toutes fraîches, mais j'ai fait ma petite liste. On en parlait avec Adrien également hier. Il n'y a que 6 pilotes pour moi qui ont vraiment signé de manière ferme pour le moment. Il y a Vettel chez Ferrari, il y a Verstappen chez Red Bull, Hamilton et Bottas confirmés évidemment chez Mercedes, Gasly chez Toro Rosso et Hülkenberg chez Renault. Est-ce que tu en vois d'autres qui ont signé pour toi, Lucas ?
Non, c'est bien ça. Pour l'instant, ce sont les pilotes qui sont verrouillés pour le moment pour l'année prochaine. Alors c'est vrai, on va en parler, il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas, est-ce que Raikkonen va être remplacé par Charles Leclerc ? A priori oui, même si la nouvelle de Sergio Marquionnet n'argue pas en faveur
de Charles Leclerc.
Raikkonen, qu'est-ce qu'il ferait éventuellement s'il était remplacé par Charles Leclerc ? Est-ce qu'il continuerait ? On sait qu'il a 38 ans. Fernando Alonso, est-ce qu'il va continuer ? Il a 37 ans aujourd'hui, l'Espagnol. Voilà, oui. Il y a beaucoup de points.
On va en parler de tout ça, bien sûr, dans le détail. Adrien, juste un mot, et peut-être avant d'écouter Carlos Sainz, puisque Lucas l'a rencontré, nous parler de ce problème de transfert, on va parler d'un des plus gros pions. Il a évoqué Raikkonen, on se le garde un tout petit peu pour après, parce que ça induit effectivement peut-être la montée de Charles. Parlons de Ricciardo. Là aussi, Ricciardo se fait un peu tirer l'oreille pour le moment. Il n'a pas beaucoup d'autres solutions, parce qu'on sait très bien qu'il n'ira pas chez Ferrari. Il attendait de voir apparemment chez Mercedes ce qui se passait. Hamilton est confirmé pour 2 ans. Bottas est confirmé pour 1 an, donc ça c'est verrouillé. On voit pas trop où il pourrait aller ailleurs que chez Red Bull, donc rester chez Red Bull. Mais c'est peut-être le moteur Honda qui le chiffonne un peu.
Mais s'il y a pas d'autre option pour Ricciardo, je trouve ça un peu bizarre d'attendre aussi longtemps.
Alors, on se demande ce qu'il attend.
Peut-être qu'il y a tout simplement des détails de contrat sur lesquels on a besoin de tomber d'accord. On sait que Max Verstappen a été renouvelé et payé bien plus que Daniel Ricciardo.
C'est alors ça. Je crois qu'il voudrait le même niveau de salaire.
Il est tout nouveau dans le. Dans l'échiquier Max Verstappen. En tout cas, Daniel Ricciardo a plus d'ancienneté, donc c'est quelque part normal pour Daniel Ricciardo de demander au moins autant que Max Verstappen.
Bien sûr. Surtout
que les résultats sont là. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure, dans l'équation, il y a trop d'inconnus pour l'instant. Honnêtement, de tirer des plans sur la comète, alors que malheureusement, enfin en tout cas, on ne sait pas si Fernando Alonso va continuer, on ne sait pas si Kimi Raikkonen va continuer. Je vais pas rentrer tout de suite dedans.
Non.
Mais c'est le jeu des Daniel Ricciardo musical, pourrait très sait. Bien aller, par exemple, chez McLaren. Même s'il fonctionne pas depuis quelques années, c'est quand même McLaren. C'est quand même une grande équipe de Formule 1
et on peut espérer qu'un jour
la roue tourne effectivement.
Alors on aborde le cas Ricciardo donc en disant allez moi je me lance 90% de chances qu'il reconduise le contrat quand même parce qu'il est au sein de l'équipe. Alors tu l'évoquais Lucas, on va en dire un mot avec toi maintenant au niveau de la Scuderia Ferrari, le décès surprise, on peut le dire, on savait qu'il était malade, mais de Sergio Marchionne qui allait quitter ses fonctions de toute manière de président de Ferrari, remplacé par John Elkann qui avait été positionné par Giovanni Agnelli à la fin des années 90. Et on sait que pourquoi on dit ça, Lucas, c'est parce que, et tu le sais aussi, Kimi Raikkonen entretient d'excellentes relations personnelles avec John Elkann. Sergio Marchionne, lui, s'était quasiment déjà prononcé pour Charles Leclerc. Est-ce que il y a quelques bruits qui fuitent dans le paddock, Lucas, à ce sujet?
Pour l'instant, pas beaucoup. Personne ne veut parler. D'ailleurs, ça a été compliqué avec la Scuderia Ferrari. Vettel n'est pas passé devant tous les médias hier à ce qu'on appelle le carré après les qualifications. Mm-hmm. Ferrari n'a pas parlé jeudi ni vendredi, n'est pas venu en conférence de presse. Donc, verrouillage de communication total, en tout cas, chez les Italiens de la Scuderia Ferrari. Mais c'est sûr que Sergio Marchionne l'avait dit, il l'avait confié plusieurs fois à plusieurs médias qu'il voulait faire venir le plus rapidement possible Charles Leclerc.
Absolument, et on espère, nous, on n'a rien contre Raikkonen, on le dit à chaque fois, mais on espère pour Charles Leclerc qui fait vraiment un parcours absolument formidable dans cette première moitié de la saison 2018, que Ferrari osera, la Scuderia osera le problème, miser sur un jeune
pilote. Le problème, c'est que peut-être qu'on respecte un peu trop Kimi Raikkonen et qu'on attend sa décision à lui de savoir s'il veut, il veut s'arrêter, s'il veut mettre un terme à sa carrière ou pas. Il y a un moment donné où les performances sont là, il est performant en termes de vitesse, mais il conclut pas, il marque pas les points que marque Sébastien Vettel et il score pas,
il transforme
pas les essais. Donc à un moment donné, il faut pour la Scuderia Ferrari être ferme et penser à l'avenir.
Alors on verra également.
Sébastien Vettel joue un rôle important aussi parce que Sébastien Vettel s'entend très très bien avec Kimi Raikkonen. Il est très écouté, Sébastien Vettel.
L'arrange d'avoir un Raikkonen, évidemment.
Il préfère avoir Raikkonen à ses côtés qu'il ne le dérange pas du tout.
Et on est bien d'accord. On a dit les choses. De toute façon, on les dit toujours sur AMC, particulièrement dans Motors. Alors qu'un Charles Leclerc arrivera évidemment avec des ambitions très élevées, même s'il a infiniment de respect pour le quadruple champion du monde de Formule 1 qui est Sébastien Vettel. On va écouter un autre homme qui est l'une des clés des transferts. Alors lui, pour le moment, officiellement, il ne s'occupe de rien. Il s'appelle Carlos Sainz. Il est espagnol. Et il est, vous le savez, prêté par Red Bull. C'est un peu compliqué. À Renault cette année, avec de très bons résultats, on écoute Carlos Sainz sur les transferts au micro de Lucas Vinoy.
Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Il y a pas mal de choses qui doivent se décider avant que je prenne une décision pour mon avenir. Pour le moment, je dois juste attendre de voir ce que Red Bull veut faire. Et après, on verra bien.
Lucas, en un mot, là, la situation est très difficile, très compliquée. Et elle est liée à un pilote français qu'on va écouter dans un instant, à ton micro également, à Esteban Ocon, dont on dit que puisque Force India ne va pas très bien, ou plutôt très mal, elle est sous administration judiciaire depuis vendredi après-midi, contrairement à ce que disait Vijay Mallya, ça va très mal. On parle d'un repreneur qui serait le papa de Lance Stroll, le milliardaire canadien, qui évidemment imposerait son fils. On en est bien là, Lucas.
Oui, c'est ça. De toute façon, si Lance Stroll rachète l'écurie Force India, il est en pole position, en tout cas pour l'instant, pour le faire. Il mettrait bien évidemment son fils dans une des deux voitures. Pérez pourrait rester, ça fait longtemps qu'il est chez Force India, et on sait qu'il est créancier, Pérez. Il apporte de l'argent à Force India, et Ocon donc trouverait un point de chute chez un constructeur français, chez Renault, en lieu et place de l'espagnol Carlos Sainz.
Justement, on va tout de suite écouter Esteban Ocon et après la réaction d'Adrien sur ce transfert potentiel. On écoute Esteban Ocon au micro de Lucas Vinoy sur les transferts.
C'est toujours bien qu'il y ait des rumeurs autour de moi. C'est sûr que Renault, c'est une équipe intéressante. C'est une équipe avec un grand projet qui progresse énormément. Donc elle est intéressante pour beaucoup de pilotes. Après, pour l'instant, moi je me concentre sur ma partie sportive, ce qui est important. Il y a beaucoup de choses à faire avec Force India encore cette année, mais je suis pas inquiet pour mon futur en tout cas. Je me suis pas fixé de date, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis pas inquiet.
Oui, alors est-ce que c'est lui qui a les clés, Adrien? C'est la question que j'ose te poser, parce que on sait qu'il est dans le giron Mercedes, on l'oublie pas, Esteban Ocon. Mais Mercedes a dit que s'il avait une offre d'une usine, Renault en est une, il ne s'opposerait pas à ce départ.
Non, bien entendu, la clé, c'est peut-être, elle est peut-être ailleurs, elle est peut-être chez McLaren, avec Stoffel Vandoorne et avec Fernando Alonso, parce que à un moment donné, Carlos Sainz, il faut qu'il ait une place, ça serait vraiment dommage de perdre un Carlos Sainz, parce que pour moi, chez Renault, je vois aucune raison de sortir Carlos Sainz pour Esteban Ocon.
Bien sûr.
J'aime beaucoup Esteban et la qualité est sûrement égale à celle de Carlos Sainz, mais Carlos Sainz a plus d'expérience. Il se fait oublier, il est très discret, mais il est très performant face à Max Verstappen. Il était très très performant, voire devant.
Et par rapport à Hülkenberg, il ne déçoit pas du tout.
Donc pour moi, Carlos Sainz mérite sa place. Ça va dépendre. On peut aussi le voir éventuellement. On sait qu'il est très proche de Fernando Alonso. On pourrait le voir prendre la place de Fernando Alonso ou alors être coéquipier chez McLaren.
Coéquipier à la place de Stoffel Vandoorne.
Qui on met une grosse pression chez McLaren. Hier encore, il a été battu pour la 12e fois d'affilée cette saison en qualification par Fernando Alonso. Il n'y arrive tout simplement pas. Alors il y a eu des problèmes avec sa monoplace, des problèmes d'appui. Ça, c'est vrai, mais Stoffel Vandoorne déçoit en interne. Et en effet, Carlos Sainz pourrait trouver refuge chez McLaren aux côtés de son ami Fernando Alonso.
Eh oui, vous voyez que c'est ce jeu des chaises musicales. Peut-être, il y a longtemps qu'il n'a pas été aussi complexe. En Formule 1, faut être honnête, à ce stade de la saison, seulement 6 pilotes signés. Voyez, on essaie de vous éclairer. C'est un peu compliqué. Alors, on n'a pas parlé d'autres pilotes. Parlons du cas Alonso maintenant, Adrien. On commence par toi. Double champion du monde, terriblement déçu par ce qui se passe chez McLaren. Il suffit de l'écouter à la radio, des fois encore hier, avec l'histoire de stratégie, son ingénieur qui lui dit, mais bon, tu vas essayer de faire un temps, alors que c'est impossible. Enfin, un enfant de 2 ans comprendrait immédiatement que c'est impossible. Donc, je suis dur, mais il y a un problème de management grave chez McLaren. Le départ d'Éric Boullier, en fait, a laissé, on semble-t-il, un vide. Bon, en tout cas, McLaren est au tréfonds et Brown a commencé à nous dire qu'il fallait 10 ans pour en sortir. Ça va peut-être faire long pour Alonso. Oui, non, il aura 47 ans.
Oui, je crois surtout que Fernando Alonso en a un peu marre de la Formule 1 et j'ai lu des déclarations d'hier où il faisait clairement, où il critiquait clairement la FOM et l'organisation de cette Formule 1 et le manque de spectacle, puisque tout le monde apparemment préfère diffuser ses conversations radio avec son ingénieur. C'est la seule chose intéressante en Formule 1, c'est ce qu'il disait hier dans des déclarations. Et quand on dit ça, ça veut dire que
tout le reste n'est pas suffisamment intéressant.
Peut-être qu'on part, on sait déjà qu'on arrête. Ouais, et puis on sait qu'il a des objectifs différents qui sont plus globaux en termes de sport automobile. Il a envie de faire de l'IndyCar, il a envie de gagner les 500 miles d'Indianapolis parce qu'il a gagné Le Mans cette année.
Et voilà, il a gagné Monaco, il est champion du monde.
Il veut les trois.
Et c'est clair que là, on le sent. Moi, je pense qu'il y a plus de 50% de chances pour qu'il quitte la Formule 1. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Allez, on va passer. On aurait beaucoup de choses à dire encore sur les transferts parce qu'évidemment, il y a le cas de chaque pilote. Il y a Pérez, dont on l'a dit, qui avait des problèmes avec Force India, c'est même ses annonceurs, parce que son salaire n'est pas payé, qui a attaqué, qui a entraîné cette crise, dont on va peut-être sortir. Où ira Pérez? Est-ce qu'il resterait chez Force India?
Il est en train de sauver cette équipe, je pense, en faisant
finalement,
ce qu'il
est. Il a un bon rôle dans cette histoire.
On a dit du côté du management qu'on l'en voulait pas, effectivement, c'est ça qui est paradoxal. On pourrait se dire, le méchant, c'est lui qui les traîne, effectivement, devant le côté judiciaire et juridique, mais en fait non, il décoince la situation. Et puis accessoirement, on a Magnussen, parce que chez Haas on sait rien pour le moment. Et puis Grosjean, on va en parler dans un instant, parce que nous allons bien sûr parler maintenant du Frenchy's Corner. Vous l'attendiez,
RMC Motors, le Frenchy's Corner.
Alors, on s'est gardé un petit peu de temps quand même parce que ça vaut le coup. On a plein de sons à vous faire écouter également. On va peut-être commencer par un sujet qui dresse un peu le portrait du tracé du tourniquet hongrois du Hungaroring, long de 4 381 km qu'il faudra parcourir à 70 reprises. Et pour ça, je vous propose d'écouter Esteban Ocon qui fait des comparaisons au micro de Lucas Vinoy.
C'est top, c'est un circuit qui tourne beaucoup, avec beaucoup d'enchaînements rapides, moyens, pas beaucoup de freinage. C'est un circuit qui me plaît. Ouais, pour ça, quand on est dans un tour qualif et que on sent bien la voiture et on fait le tour et on a un sourire, quoi. C'est comme un peu comme Monaco, ouais, exactement. C'est agréable.
C'est agréable, effectivement. Les pilotes, comme tu l'évoquais hier, Adrien, où ils aiment ou ils détestent. Ça dépend des résultats qu'on a aussi.
Quand on est bien performant. Non, mais c'est un circuit qui.
Je vous connais bien.
C'est un circuit compliqué, cet Hungaroring, parce qu'il faut une voiture vraiment équilibrée, un train arrière qui soit vraiment stable et pas avoir trop de sous-virages non plus, parce qu'il y a des enchaînements de virages où effectivement on a besoin d'une voiture assez vive. C'est très très technique. Il y a plusieurs rythmes en fait sur ce tour. Le premier secteur est assez rapide. Il y a des virages à très haute vitesse, un peu à l'aveugle. Et puis le deuxième secteur, là où on fait le chrono, est plus technique et plus à basse vitesse. Et puis on finit par un dernier secteur très compliqué avec les deux derniers virages qui sont très très longs et très très pauvres en grip, adhérence sur la piste.
Et puis il y a des dévers, comme on l'a dit, le premier, le deuxième, et c'est pas évident. Écoutons un autre pilote français, après Esteban Ocon, parler de ce tourniquet hongrois. Il s'agit de Romain Grosjean, toujours bien sûr au micro de Lucas.
C'est un circuit, en fait, on a très peu de lignes droites et beaucoup de virages sur un kilométrage court. Donc voilà pourquoi, en fait, on appelle un tourniquet. C'est pas comme Hockenheim où il y avait 6 ou 7 virages sur 4,6 km. Là, il y en a 14 vrais sur 4,3 km. Donc on a très peu de lignes droites et du coup, sur le week-end de course, les pneus ont pas beaucoup de facilité parce que on sort d'un virage pour en attaquer un autre, donc la charge qui va à travers les pneus est difficile, et en plus en général il fait chaud, donc il y a un gros management à faire sur les gommes.
Alors, management des gommes, Lucas, on est un peu habitué en Formule 1, malheureusement c'est l'une des clés, si pas la clé absolue pour une belle performance. On l'évoquait tout à l'heure, déjà on va voir ce que choisissent les pilotes là librement parmi les 10 premiers, mais aussi les autres, puisque d'habitude c'est à partir du 11e, en l'occurrence Fernando Alonso, qu'on peut choisir la qualité de sa gomme. Alors est-ce que certains vont opter justement pour des gommes performantes quand on est devant peut-être, et puis derrière on va essayer de rester en piste un petit peu plus longtemps, et c'est pas tout à fait clair hein, la longévité de ces pneumatiques. Lucas, on a vu des pilotes parcourir par exemple plus de 30 tours avec les ultra soft, même à Budapest dans la canicule.
Oui, c'est ça, mais par contre, il se dégrade relativement vite, après il se stabilise, mais le rythme est quand même assez lent. Donc on serait tenté de dire que devant on va essayer quand même de partir avec des pneus soft ou même ultra soft pour faire le trou en fait avec le reste du peloton, pour pouvoir après rentrer au stand et repartir devant, parce qu'on vu que c'est très très difficile ici de doubler, il ne faut surtout pas se retrouver bloqué derrière un pilote avec qui on n'est pas en bagarre.
Allez, Adrien, je vais te faire te livrer un exercice et te mouiller, même si c'est sec. Oula, attention, il me regarde avec un œil. Alors, tu es à la place de Pierre Gasly. Tu es sur la troisième ligne de la grille de départ avec la Toro Rosso à moteur Honda. Tu es sixième, t'as le choix des pneumatiques. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais les ultra soft pour essayer d'être aussi performant que possible, ou les soft ou les médiums en fonction de tes essais pour rester en piste quand les premiers vont s'arrêter?
Je sais que j'ai un déficit de performance sur le sec, donc je sais qu'à pneus égaux, ça va être compliqué de suivre le rythme de devant et je pourrais être en difficulté par rapport aux pilotes qui sont derrière moi avec des pneus plus performants. Donc je tire profit de cette place qui n'est pas la sienne en fait sur Bien la sûr. Grille sur un circuit sec et je pars en ultra soft en essayant de m'accrocher à ceux qui sont devant et voilà. Pour gagner vraiment ce temps en début de course, et on sait que c'est à ce moment-là que les écarts se créent. Il peut y avoir des incidents au départ, et puis voilà, tout le temps gagné au début de ce Grand Prix, bah il l'aura gagné dans tous les cas.
Je sais pas pourquoi je pensais que t'allais me répondre ça, parce que les pilotes ils aiment toujours la performance, effectivement. Non, mais c'est super. Écoute, on va l'écouter.
Et puis il va toujours très loin avec ses pneumatiques.
Il est capable de les entretenir.
On l'a vu à Hockenheim aller très loin avec un train de pneus en espérant la pluie. Donc voilà, il est capable de ça.
Comme un Pérez, hein, en l'occurrence, ce sont parmi les deux pilotes qui sont capables de rester le plus longtemps. On va écouter Pierre Gasly, je te rassure, c'était pas une question piège, pas sur celle que je t'ai posée là, mais sur la nature de ce circuit et ce qu'il en attend. Pierre Gasly, au micro de Lucas Vinoy.
Ça ressemble, on va dire, à une piste de kart. Les lignes droites sont vraiment courtes. C'est sans cesse en train de tourner, en fait. Il y a énormément de rythme sur tout le circuit. La seule ligne droite qu'il y a, elle est assez courte. Donc, en fait, ça rajoute, on va dire, que l'impact des virages a beaucoup plus d'importance sur le temps autour que sur d'autres pistes.
Et voilà ce que nous disait donc il y a un instant Pierre Gasly. Alors Lucas, effectivement, on parlait beaucoup de météo. En tout cas, ça fait deux grands prix que ça affecte un peu le déroulement. On l'a dit, ça devrait pas être le cas. Alors le problème du Hungaroring, souvent, c'est que c'est un défilé. C'est-à-dire qu'on a vu certains grands prix. Moi, je me souviens d'une victoire de Thierry Boutsen. Ça remonte à quelques années. Vous n'étiez pas là, mais moi, oui. Et où effectivement, il avait maintenu avec beaucoup de talent, hein, mais il avait maintenu l'ensemble du paquet derrière lui. D'après ce que tu entends, Lucas, tu penses que ces stratégies décalées pourraient quand même permettre à certains, et notamment les Ferrari, de sauter les Mercedes. On y va.
On parle souvent de stratégie décalée et puis finalement on se rend souvent compte que,
ça
que ce n'est pas
trop
forcément possible de se décaler. Même Romain Grosjean nous le disait, décaler, c'est presque les pneus qu'il faudrait décaler. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de dépassement, que les stratégies sont compliquées. Souvent il y a une seule et unique stratégie. Alors après oui, il y a eu 31 manœuvres décisives en 2015, mais seulement 10 l'année dernière et l'année d'avant. Donc oui, c'est sûr que c'est compliqué de dépasser. La piste n'est pas large, il n'y a pas d'énorme freinage où on peut se jeter à l'intérieur, mais bon, on espère un bon Grand Prix, puisque les pilotes qui sont devant ou même certains pilotes ne sont pas à leur vraie place sur la grille, donc on devrait peut-être avoir plus de dépassements qu'à l'accoutumée.
C'est clair, et puis on n'a pas fini sur les transferts, juste un petit mot avant de vous parler de vacances, des vacances des pilotes après le Grand Prix. Et bien pour ceux qui sont en danger quand même, en danger de ne pas retrouver de volant, et bien on est obligé d'y mettre Romain Grosjean, hein. La pression a été mise par les responsables de Haas qui l'ont dit, tu as deux Grands Prix, en l'occurrence le dernier en Allemagne et celui-là en Hongrie, pour démontrer que tu es fiable et rapide. Alors c'est vrai que on va pas épargner Magnussen, parce que la pression elle est sur les deux pilotes, mais particulièrement sur Romain Grosjean après son début de saison catastrophique. Brendan Hartley, là aussi il fait une belle performance sur le mouillé, mais c'est vrai qu'il est en grave difficulté chez Toro Rosso, puis ça pousse derrière. Ericsson, alors même s'il apporte un budget, c'est pas évident non plus. Stroll, alors on l'a dit, Stroll normalement papa lui achète une écurie, donc ça devrait aller chez Force India. Je caricature un peu. Van Dorn, on l'a évoqué évoquait tout à l'heure, et puis Sirotkin.
Il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans cette situation-là. Ça va peut-être mettre quelques mois supplémentaires pour se décanter, mais en tout cas c'est très très difficile de lire clairement ce qui va se passer.
Et puis ceux qui pourraient rentrer, et après on écoute Esteban Ocon sur ses vacances potentielles, il y a Kubica qui est toujours aux portes, Giovinazzi, Lando Norris évidemment, Nicolas Latifi, Nikita Mazepin,
il y en a plein,
Adrien Tambay, on m'a dit bon etc. On va écouter Esteban Ocon parler maintenant de ses vacances et de ce qu'il pense faire après ce Grand Prix de Hongrie au micro de Lucas Vinoy.
Je m'entraîne un petit peu beaucoup, parce que bon, je pars en vacances, certes, la première semaine, mais l'autre, c'est dans les Pyrénées, en altitude. Comme d'habitude, on perd pas les bonnes habitudes, donc c'est sûr qu'on coupe, ce qui est important pour revenir plus fort, mais après l'entraînement, et on reprend.
Et voilà, on a été à peu près complet sur la F1. Bien sûr, je vais dire à Lucas qu'il peut partir se brumiser ou le spray pour se garder au frais.
Dans
la fournaise hongroise. Ah, mais je sais que tu as déjà goûté à ces nuits hongroises chaudes. Je te fais confiance, Lucas. J'espère, en tout cas. Donc, on te retrouve tout à l'heure, un petit peu avant l'émission. Je crois que dès 14h45, on sera sur l'antenne de RMC. Donc, on compte sur toi, bien évidemment. Je vais garder Adrien au chaud, enfin au frais. On est pas mal dans le studio. Et puis, dans un instant, je vais accueillir Benoît Boutron et Patrick Rivet. Vous êtes avec nous dans Motor, c'est la troisième ligne droite. On a droit au DRS. Vous restez avec nous.
RMC Motors avec Motorsport TV. Jean Lecroix.
Et oui, vous êtes bien dans Motors, vous êtes bien sur RMC pour parler de sport mécanique. On vous a beaucoup parlé de Formule 1 avec le Grand Prix de Hongrie, dont le départ sera donné tout à l'heure à 15h10 en direct, bien sûr, sur notre antenne. RMC, c'est la radio de la Formule 1, vous le savez. Mais tout de suite, on va entrer dans un autre registre. On va parler d'autres sports, c'est Radio Paddock.
RMC Motors.
World Champion! Oh my God! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Est-ce qu'on entendra ces cris de joie? C'est Lewis Hamilton, là, pour un titre de champion du monde, le dernier. Il en a 4. Est-ce qu'il aura le 5e? On le verra plus tard. En tout cas, j'ai le plaisir, pour ce Radio Paddock, d'accueillir le sémillant Benoît Boutron. Bonjour Benoît.
Salut Jean-Luc, salut à tous.
Et puis je salue également Patrick Rivet. Bonjour Patrick.
Bonjour Jean-Luc, bonjour salut à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Tu vas nous éclairer de tes lumières et je précise, c'est toi, je vais te donner le volant après qui assurera la présentation.
Les lumières, c'est les phares, le volant, j'espère assumer correctement avec les pédales.
Pierre Amiche, notre producteur qui va veiller sur toi. Ne t'inquiète
c'est bien,
pas.
C'est bien.
Alors, dans ce Radio Paddock, on a plusieurs registres, Benoît, plusieurs chroniques et plusieurs
et disciplines. Une actu chaude. Le rallye de Finlande qui vient de se terminer il y a quelques minutes, la 8e épreuve de la saison et la victoire de l'Estonien Ott Tänak qui s'impose finalement devant Mats Hultberg. Les deux se sont tirés la bourre pendant tout le week-end. Finalement, c'est Tänak qui s'en sort. 3e place pour Jari-Matti Latvala. On s'intéresse surtout à Sébastien Ogier qui termine 5e et qui reprend 8 points à Thierry Neuville qui est toujours en tête du championnat du monde. Neuville termine 9e. Désormais, le classement actualisé, on a Neuville en tête avec 151 points. Ogier 2e avec 130 points, 21 points de retard. Toujours pas de victoire pour Ogier, ça commence à faire, mais en tout cas, il reprend un petit peu il limite le retard sur Thierry Neuville. Il va falloir accélérer sur la deuxième partie de saison s'il veut conserver son titre de champion du monde, monsieur.
Et oui, c'est clair. Et puis c'est clair. C'est Tänak qui fait la belle affaire là, en remportant, en dominant même, on peut le dire, ce rallye. Lui, il doit un peu remonter au championnat. Il était à 79 points, je crois,
Tänak
juste avant.
Tänak qui reste 3e. Hein. Il conforte effectivement sa 3e place. Il est quand même loin. Il est à 46 points de Thierry Neuville.
Ah oui.
On suit vraiment le duel entre Ogier et Neuville, c'est là-dessus que ça va se jouer. Il faut qu'Ogier retrouve la victoire en rallye. Hein.
Alors justement, on va en parler et on l'évoquait dans les grandes gueules, hein, tout à l'heure. Moi, c'était mon vestiaire parce que j'ai poussé un coup de gueule en disant cet ordre de départ et Patrick et Adrien, on va en parler, qui est aberrant. Moi, je le dis carrément maintenant. Alors, Sébastien Ogier se bat contre ça depuis longtemps. Avant, c'était carrément les deux premiers jours d'un rallye. On partait maintenant, c'est un jour. Mais bon, on voyait que le fardeau à trimballer, c'est impossible.
On rappelle la règle, c'est qu'on part en tête lorsqu'on est en tête du championnat. On ouvre la piste en fait.
Voilà. Et quand il y a justement de la terre comme ça, on nettoie la trajectoire et on la fait pour les autres. C'est quand même pas normal que les deux types qui se battent pour la victoire se retrouvent. Et encore, Ogier est bien remonté là, il est remonté 5e.
Exactement.
Hein. Tout à fait. Mais c'est un vieux débat l'on pourrait encore avoir sans doute au mois de.
Si la fédération nous écoute,
si la fédération écoute les pilotes. Alors c'est vrai que Sébastien Ogier en particulier plaide pour le fameux shakedown, c'est-à-dire la petite spéciale qui sert d'entraînement. juste avant le départ du rallye, que comme ce fut le cas déjà dans
exactement.
Le passé.
Et ensuite, il y a un amphi, voilà, tu choisis ta place de départ.
C'est ça. Alors, il y a le tirage au sort qui se fait par exemple en championnat européen des rallyes, où les pilotes qui ont signé les meilleurs chronos de cette séance de qualification, qui devient donc une séance de, une sorte de spéciale de qualification, tirent leur, forcément, le pilote qui a fait le meilleur temps, c'est lui qui tire en premier. En général, il prend la 10e place ou la 12e ou la 15e. Voilà, en fonction.
Alors, on parle de la terre, bien
sûr.
Sur la terre,
puis sur le goudron, en général, on a plutôt intérêt à faire l'inverse, d'ailleurs, à rester devant, parce que on sait jamais si la pluie se mêle de la partie.
Et ça, ils en parlent pas. C'est-à-dire que c'est un avantage quand ils partent devant sur le goudron. Oui.
Et puis, les pilotes ramènent des grappes
de la terre.
Quand on passe 20e et qu'on est en deux roues motrices, j'ai connu ça.
J'allais te demander ton avis.
Et qu'on a de la terre sur la trajectoire, qu'on est obligé de couper le virage pour pas sortir de la route, c'est un désavantage. Donc bon, c'est à double tranchant, c'est encore des histoires de règlement, de politique.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Adrien? Tu opterais pour quoi? Est-ce que
si vraiment tout le monde est mécontent et s'il faut trouver une solution, alors un tirage au sort, voilà. Et puis au moins.
C'est peut-être la moins mauvaise solution.
Oui, parce que en sport automobile, dans le sport en général, il faut de la réussite. Ouais. Sur une saison complète ou sur le nombre de rallyes qu'il y a sur la terre.
On va dire qu'Ogier, il a quand même réussi à être 5 fois champion du monde.
Voilà, donc, ça s'égalisera et puis il aura pas de chance une saison et puis la saison d'après il aura de la chance.
Enfin bon.
Ce qu'il faut voir pour continuer sur ce rapidement sur ce petit débat, c'est qu'à une époque où le niveau du championnat n'était pas celui qu'il est actuellement, il était facile de reprendre par paquet les secondes que l'on avait pu perdre lors de la première journée. Ce fut le cas à l'époque. Ouais,
deux c'était trop.
Deux c'était trop. Mais quand il y avait déjà une journée et que, par exemple, on se rappelle de la période de vraiment la domination de Citroën et de Sébastien Loeb, le duo Citroën-Loeb était capable de reprendre des secondes.
Domination écrasante.
Franchement, avec le niveau actuel qu'il y a entre Toyota, Hyundai, Citroën, qui a enfin placé avec Mats Rosberg, une voiture sur le podium, ça faisait un petit moment, c'est à signaler. Et Ford, c'est impossible. Si on se mange, entre guillemets, 30 secondes, eh bien, on les trimballe après.
Je sais pas si la logistique le permettrait, mais à ce moment-là, le faire après la première spéciale, directement.
Ouais. Alors, moi, j'ai aussi un autre avis. Et là, si effectivement, comme tu le dis, Jean-Luc, s'il a fédé nous écoute, tant mieux. Bah, ce serait peut-être de rééquilibrer les rallyes terre et les rallyes goudron.
Oui, dans
le
championnat.
Franchement, déjà, quand on voit les voitures qui sont impliquées en championnat du monde des rallyes, c'est quoi? Ce sont des Ford Focus, ce sont des Hyundai i20. Donc, ce sont des voitures qui dans la vie de tous les jours, ne sont jamais sur la terre. Ce sont les voitures que vous achetez et qui sont dans ce fameux segment B, c'est le segment
c'est
le plus
spectaculaire.
C'est plus spectaculaire. Mais ou alors on fait comme en Espagne, on fait des rallyes mixtes avec de la terre, avec comme ça a été le cas à un moment donné, c'était le cas également en Toscane. Voilà, donc
il
y a moyen,
parce qu'on a d'autres sujets.
Il y a moyen de revoir les choses.
Juste pour dire que le rallye suivant après la Finlande, donc c'est le rallye d'Allemagne,
le bitume justement.
Et ben tu vas nous en parler puisque ce sera du 16 au 19 août.
Absolument.
Donc tu auras l'opportunité d'en parler. Ensuite, c'est le rallye du Pays de Galles. Alors ce sera beaucoup plus tard. Il y a la Turquie au milieu.
J'ai oublié la Turquie. Qui revient en calendrier.
Qui revient. Ah bah oui. Bon, là aussi, ça suscite des commentaires.
Sûr.
On va pas se lancer là-dedans. La Turquie, le Pays de Galles, l'Espagne et l'Australie. Voilà, Benoît, pour
allez,
le
WRC. On jette un voile.
Parlons d'IndyCar un petit peu. On a une épreuve aujourd'hui, l'épreuve de Mid-Ohio, avec la grille qui est connue et l'américain Alexander Rossi qui partira en tête. On rappelle que c'est le vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. Scott Dixon, le leader du championnat du monde, partira seulement 9e. Et on a une déception pour nos Français, vous avez vu ça. Ouais. 17e position pour Simon Pagenaud qui est loin et qui vit vraiment une saison galère. Et puis, ton ami Bourdet, lui, malheureusement, Jean-Luc, partira dernier. Il avait gagné sur ce circuit en 2014, mais là, il a eu des soucis mécaniques, donc il partira en dernière position.
Et alors que c'était lui le plus rapide de la première séance, devant New Garden. Alors, c'est vrai que l'IndyCar, on en parle d'abord, c'est un championnat extrêmement...
Vikens, Jean-Luc, tu sais.
Alors, sur la grille finale...
Il est cinquième.
Ouais. Oui, il est très bien. Oui, tu le connais. Hein.
Il était en DTM avec moi. Ouais, c'est un pilote très, très, très rapide et qui était coéquipier en Formule Renault 3 litres 5, juste avant la Formule 1 de Jean-Éric Vergne et qu'il a toujours dominé d'ailleurs.
Ben voilà, donc c'est pour dire que au cas où certains auraient des doutes, mais on sait que ceux qui écoutent Motors n'en ont pas, le championnat IndyCar c'est un sacré niveau, et puis on en parle souvent, parce qu'effectivement avec des types comme Alexander Rossi qui a officié en Formule 1 aussi, on en parle régulièrement également dans les couloirs de Liberty Media parce que c'est un pilote américain extrêmement performant et que pourquoi pas le voir, tu vois ce que je veux dire, dans une équipe américaine comme Haas par exemple.
Par exemple.
Voilà, ça y est.
Dans un Grand Prix de Miami, ça serait fantastique.
Et ben voilà, qui arrivera. Alors a priori priori, c'est plus 2019, c'est 2020.
Voilà, 2020. Ça lui laisse un peu de temps.
Mais on y arrivera peut-être. Bon, voilà pour l'IndyCar. En tout cas, c'était important de donner ce coup de projecteur, entre guillemets, sur cette discipline.
Et puis, on se rappelle juste, on a un souvenir personnel avec Simon Pagenaud qui nous avait ramené le trophée du vainqueur de la saison. C'est peut-être l'un des plus beaux trophées de sport avec la Coupe du Monde de football. C'était fantastique.
C'était
une grosse valise. C'était impressionnant.
Et on rappelle, comme tu le dis, il a une saison un petit peu difficile, Simon, parce que il est un peu, dominé. Là, il y a Will Power, qui est l'homme fort de l'équipe Penske. Ouais. On rappelle que c'était avec Joseph Newgarden également, champion.
Champion en titre.
Et voilà, champion en titre. Donc c'est vrai que là, cette année, c'est pas une année sans, mais c'est une année un petit peu plus difficile.
Il est septième du championnat du monde pour l'instant.
Et quant à Seb Bourdais, lui, il pilote pour une petite équipe, le Dale Coyne Racing.
Exactement.
Et puisqu'on en a des souvenirs, j'ai eu le privilège d'être avec le déverminage avec lui à Sebring, donc en Floride, et c'est quelque chose. Et je peux vous dire, c'est le sport automobile comme on l'aime, parce que là, tu es sous une tente avec les mécanos. Tu vois les gens bosser, tu es au bord de la piste, tu te régales et tu prends un pied, formidable. Ben voilà, donc c'est possible de faire du sport automobile à haut niveau.
Dis-le
et
à Fernando Alonso aujourd'hui.
Je vais le dire, lui il a compris depuis longtemps. Ouais. Allez,
vous adorez également l'endurance, et ça c'est
tout,
le direct.
On aime tout.
D'ailleurs Patrick, tu vas nous faire un point, ce sont les 24 heures de Spa qui ont démarré hier à 16h30, donc on est rentré dans les 3 dernières heures de course.
Absolument.
Et a priori c'est BMW qui domine cette épreuve pour l'instant.
Oui, à la grande surprise peut-être, c'est pour ses 70e 24 heures de Spa. On parle là de Grand Tourisme, de GT, que Adrien connaît bien aussi, puisqu'il roule sur une Mercedes du Straka Racing depuis le début de la saison
en
endurance.
On préfère l'avoir avec nous, mais on aurait bien voir au volant.
Mais Rubens Barrichello, qui l'a remplacé, a perdu une roue bêtement.
Qui ça?
Rubens Barrichello.
Il fait doubler par les petits nouveaux.
Il fait doubler par les anciens de la F1. Voilà. Bon, alors, Valkenhorst Motorsport, cela vous dit rien. À moi non plus, d'ailleurs. Plus sérieusement, c'est une équipe qui roule beaucoup en Allemagne, en particulier dans le championnat qui a lieu sur la Nordschleife, la grande piste du l'ancien Nürburgring dans la catégorie VLN. Et c'est cette voiture qui actuellement est en tête avec 446 tours couverts, mais avec seulement 3 secondes 8 d'avance, alors qu'on est dans les 3 dernières heures, incroyable, sur une autre BMW.
Et seulement 7 sur l'Audi de Marcus Winkelhock.
Voilà, sur l'Audi,
rien n'est joué.
Voilà, cette Audi qui est à la 3e position, c'est celle de l'équipe française Saint-Eloc. C'est l'équipe qui a gagné l'épreuve il y a un an de cela, et qui est en passe peut-être aussi de pouvoir renouveler l'exploit, ce qui n'est pas arrivé depuis extrêmement longtemps, qu'une équipe puisse doubler comme ça d'une année sur l'autre la victoire sur ces 24 heures de Spa. C'est la grande course d'endurance de la catégorie GT. 63 voitures au départ, 13 marques, incroyable.
Et un circuit fantastique, évidemment. 7 kilomètres de bonheur, Adrien, tu connais bien, évidemment. Et parle-nous de ce niveau de pilotage en GT. Tu le disais, il y a pas mal d'anciens pilotes de F1 aussi. Et quel pilote,
Là, il y a dans le classement que j'ai sous les yeux, il n'y en a pas un mauvais, C'est vraiment, on a Christian Klien, on se souvient de Christian Klien, par exemple, qui est 14e, avec la Lexus de chez Emile Frey. Il y a Michael Aleshin juste devant lui, 13e, Eduardo Mortara 11e, a été mon coéquipier en DTM. Voilà, il y a que des bons pilotes, et c'est à chaque fois une vraie bataille, et on se frotte porte contre porte.
Allez, c'est toujours un plaisir de parler de sport mécanique avec vous, mais on a un autre grand nom qui pourrait revenir en haut des classements.
Exactement.
Et ça va faire plaisir à beaucoup de monde.
Et on va rester à Spa, puisque c'était sur le même circuit avec la victoire. Ça ne vous a pas échappé, c'est l'info de la semaine. La victoire en Formule 3 de Mick Schumacher, le fils de Michael, 19 ans seulement. C'est sa deuxième saison en Formule 3. Il est 8e au championnat du monde et il s'est imposé effectivement cette semaine à Spa, la même où son père avait décroché la première de ses 91 victoires en Formule 1. C'était en 92. L'histoire est incroyable. La légende Schumacher, évidemment, fait toujours rêver tous les fans de Ferrari, notamment. Et voir le fils de Michael remporter un grand prix, même si ce n'est que de la Formule 3, c'est toujours quelque chose d'incroyable.
Il fait ses armes, il doit avoir évidemment beaucoup de pression quand on porte un tel nom, et on rappelle que c'est là que son papa avait débuté en Formule 1 également.
Exactement.
Et voilà, en 91, et exactement.
Et puis il vit un moment difficile quand même, faut le rappeler.
Oui, son père est toujours
très
dans
difficile. Et puis un petit clin d'œil à Patrick Tambay qui nous écoute certainement, puisque son équipe c'est le Préma Théodore Racing. On n'oubliera pas que Patrick a fait ses débuts en Formule 1 au sein du Théodore Racing.
Teddy Yip.
Exactement. exactement. Donc qui perdure, qui existe toujours avec ce nom-là. Bah, c'était, écoute, c'était impeccable. Benoît, on a fait un beau tour de différentes
disciplines. Voilà. Bah, voilà, il manquait que le MotoGP. On aurait été
content. Oui, on en a parlé la semaine dernière et puis on en reparlera sûrement avec Patrick.
On en reparlera la semaine prochaine.
Patrick,
absolument.
Donc, c'est à toi que je passe le volant. Merci beaucoup, Adrien. On te retrouve. Tu restes avec moi à 14h45. On est là. Merci, Patrick.
Merci,
c'est toi qui prends le volant.
Salut.
La semaine prochaine. Merci, Benoît.
Merci, Joël.
C'est l'excellent, non moins excellent, François Pinet qui va maintenant récupérer. Je vais préférer dire le guidon parce qu'il va y avoir un peu de vélo. Bon, il va y avoir du volant aussi.
Il va y avoir du volant. Et il faut que vous restiez dans les parages, messieurs, évidemment. On va avoir besoin de toi, Jean-Luc et Adrien, puisqu'on va vivre en direct en intégralité. Vous le savez, c'est sur RMC le Grand Prix de Hongrie. Départ à 15h10. On fera une présentation à 14h45 avec vous, messieurs. Et puis, au programme également, la dernière étape du Tour de France entre Houille et les Champs-Élysées, l'occasion de la fête. On fera un petit bilan d'ailleurs sur ce Tour de France. Est-ce qu'il vous a plu? On vous attend sur le hashtag RMC Live sur Twitter ou encore sur l'appli RMC Direct Studio. Et puis bien sûr, toutes les infos Mercato. On sera d'ailleurs en direct de Singapour avec Loïc Tanzi pour prendre des nouvelles du PSG. Sur le terrain, c'est pas trop ça, mais on attend les mondialistes qui arrivent au compte-goutte. Et on verra un PSG bien meilleur, sans doute, la semaine prochaine face à Monaco lors du trophée des champions. L'intégral sport avec donc de la Formule 1, du vélo, du foot au programme. C'est entre 14h et 17h. On vous attend nombreux sur RMC. À tout de suite.
À tout de suite. Salut à tous.
RMC Intégral Sport.